Bonjour à tous, je suis Dr. Claude Garceau et bienvenue à notre petite mouture des petites vites en médecine interne. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rosalie Darvaux, qui est pharmacienne à l'UCPQ. Bon, il ne se passe pas une semaine, même cette semaine j'étais à l'étage, sans qu'un résident en médecine interne soit confronté à un sevrage alcoolique. Toutefois, j'ai constaté que la plupart des résidents ont un niveau de confiance assez faible face à ce problème. Et puis, je sais, Rosalie, que vous êtes en train de rédiger une ordonnance individuelle standardisée pour les CPQ sur le sujet du sevrage alcoolique qui va être vraiment utile. Pourriez-vous nous glisser un petit peu quelques mots de pourquoi votre intérêt et votre démarche actuelle que vous faites sur le sevrage alcoolique?
Bonjour, Dr. Garceau. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de discuter avec vous du sevrage alcoolique. En effet, j'ai un intérêt là, pour la prise en charge de ces patients à l'UCPQ par le fait que je travaille en médecine interne. Donc, en effet, il arrive fréquemment on a des patients qui sont hospitalisés en fait pour le sevrage alcoolique. Mais on a aussi un deuxième type de population qu'on rencontre fréquemment à l'hôpital. C'est les patients qui sont hospitalisés pour d'autres conditions, mais qui ont un trouble de consommation d'alcool, puis qui vont présenter en fait des symptômes de sevrage là, léger ou modéré en raison du fait qu'ils ne peuvent pas consommer à l'hôpital. Donc, au Québec, en 2014 et en 2015, l'INSPQ a sorti des statistiques donc qui précisent qu'un homme sur quatre et une femme sur six avaient une consommation abusive d'alcool, qui est définie en fait par les hommes pour avoir déclaré en fait au moins 5 verres d'alcool ou plus, et les femmes pour avoir déclaré au moins 4 verres d'alcool ou plus en une même occasion. Donc, c'est assez fréquent. Puis, une étude en fait qui a été publiée dernièrement en 2018 dans le JAMA, donc présentait qu'entre 2 à 7 de ces personnes qui consomment de l'alcool de façon abusive développent un sevrage à l'alcool sévère. Donc, il faut être à l'affût de ces symptômes chez la clientèle hospitalisée.
Donc, on sait maintenant, d'après les articles que j'ai mis sur le site de l'externat, que vous allez pouvoir retrouver facilement ou au site de la résidence, que face à un patient qui rentre à l'hôpital, on doit vraiment les classer selon le risque de sevrage. Alors, face à un patient qui nous jugeons à risque de sevrage, quelle serait l'approche optimale de votre point de vue?
Donc, en fait, pour les patients à risque de sevrage alcoolique en établissement de santé, une grande majorité sont hospitalisés pour une autre raison médicale, mais à risque de sevrage en raison de leur habitude de vie. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sevrage alcoolique, mais je tiens à préciser que d'autres habitudes de vie aussi peuvent nécessiter une prise en charge pharmacologique. Donc la première étape pour la prise en charge, en fait pour identifier les patients à risque de sevrage alcoolique, c'est de faire une évaluation initiale du patient lors de son arrivée à l'hôpital. C'est primordial en fait pour prendre en charge le sevrage alcoolique en amont. Donc il existe un outil pour identifier les patients à risque de sevrage alcoolique. C'est le questionnaire simplifié, en fait, qui s'appelle ODI-PC, qui permet de cibler les patients à risque là, de sevrage alcoolique avec 5 petites questions, qui a quand même là, une sensibilité de 91% et une spécificité de 90%. Donc, les patients qui ont un score plus grand ou égal à 4 sont à risque de présenter des symptômes de sevrage alcoolique.
Donc, ce score-là s'appelle comment, vous l'appelez?
ODI-PC, donc A-U-D-I-T, trait d'union PC. Il se trouve facilement là en ligne ou encore dans le guide là, de l'INAES ou dans les lignes directrices là, américaines de dépendance là, avec l'abréviation ASAM. Donc, c'est 5 petites questions là qu'on demande aux patients. Donc, la fréquence de consommation d'alcool, le nombre de consommations consommées là, lorsqu'ils consomment ou encore le nombre de fois là, dans la dernière année où la personne sentait qu'elle n'était pas en mesure d'arrêter de consommer une fois qu'elle avait commencé. Les deux autres questions sont le nombre de fois dans la dernière année où les patients ont fait une consommation abusive là, d'alcool qui a fait en sorte que la personne n'était plus en mesure d'accomplir ses tâches. Puis la dernière, en fait, c'est à savoir si quelqu'un dans leur entourage, donc amis, famille, médecin, etc., est préoccupé en lien avec la consommation d'alcool du patient. Donc, je pense que c'est des petites questions qu'on peut ajouter facilement au questionnaire là, de base des patients pour s'assurer là, de faire en sorte que leur hospitalisation se passe mieux. Donc, une fois qu'on a identifié les patients à risque de sevrage alcoolique, on peut identifier les patients qui sont à risque de sevrage sévère ou en fait plus à risque de sévère. Puis là, c'est un autre outil en fait qui existe, qui est l'outil PASE. Donc, lui aussi, il est disponible là, dans les outils précisés, là, soit lui de l'INAES ou dans les lignes directrices américaines. Puis, ça permet vraiment d'identifier les patients qui sont à risque de sevrage modéré ou sévère pour pouvoir là en fait prescrire un traitement qui va empêcher, en fait, de présenter les symptômes.
Bon, ben maintenant, on a vraiment bien identifié nos patients qui sont à risque. On voit maintenant qu'on a un patient qui est vraiment en sevrage. On est pogné avec samedi. Le guide de l'INAES, qui est en ligne, que je vous recommande de lire, qu'on a mis sur le site, est un bon, vraiment, à mon avis, un bon point de départ comme lecture. Bon, il divise les patients en sevrage léger, modéré ou sévère. Donc, évidemment, l'approche du sevrage va dépendre de la sévérité. Est-ce que vous pourriez nous parler du choix de traitement possible pour les sevrages légers à modérés? Remarquez que pour les sevrages sévères, ceux qui vont conduire souvent le patient aux soins intensifs, il y aura un autre podcast qui sera fait avec un intensiviste. Alors, Rosalie, je vous laisse la parole.
Oui, donc en fait, pour les traitements pharmacologiques du sevrage, c'est important en fait de prescrire un traitement pharmacologique là pour les patients qui sont à risque de sevrage compliqué. Donc, les patients qui ont présentement pas en fait de symptômes de sevrage, mais qui présentent là un outil base dans un fond qui nous permet de cibler les patients qui sont à risque de sevrage modéré ou sévère, un score en fait supérieur à 4. Comme ça, les patients ont pu leur prescrire un traitement pharmacologique que je vais vous parler dans un deuxième temps. Sinon, on peut aussi prescrire un traitement pharmacologique pour les patients qui sont à faible risque de complications liées au sevrage, mais qui ont des symptômes là, de sevrage actif léger ou encore un risque de développer un syndrome de sevrage ou à la réduction de la consommation. Donc, pour cibler ensuite de ça, les patients en fait qui sont en sevrage actif, puis donc déterminer en fait les symptômes de sevrage alpha. Il y a un outil, encore une fois, qui existe dans la littérature qui s'appelle l'outil CIWA. Donc, il y a le CIWA AR ou encore le CIWA modifié. Donc, personnellement, j'aime bien le CIWA modifié là, qui permet là, d'être un petit peu plus concis puis permet de faire une évaluation plus succincte du patient, mais en ayant l'ensemble des informations pour pouvoir là, prescrire un traitement. Donc, dans les traitements pharmacologiques du sevrage à l'alcool, la pierre angulaire, c'est vraiment, dans le sevrage léger ou modéré, les benzodiazépines par leur effet GABAergique. Donc, les deux molécules par la bouche qu'on utilise le plus dans notre sang là, de façon fréquente sont le lorazépam, donc mieux connu sous le nom d'Ativa, ou encore le diazépam qui est le Valium. Donc, si on fait la différence entre les deux molécules, donc le lorazépam devrait être favorisé pour la clientèle de plus de 65 ans, en raison de sa courte durée de vie ou encore chez des usagers avec insuffisance hépatique. Pour ce qui est du diazépam, lui, il doit être favorisé lorsqu'on veut pas d'effet de fine dose parce que le diazépam en fait a une longue demi-vie. Puis il peut être favorisé également chez les usagers qui ont un trouble lié à l'usage de benzodiazépines ou encore du GHB. Je tiens à préciser par exemple que les patients qui prennent des benzodiazépines de façon régulière à la maison doivent absolument être poursuivis lorsqu'on prescrit enfin un traitement pharmacologique à base de benzodiazépines pour le sevrage à l'alcool pour s'assurer en fait d'éviter de surajouter un sevrage aux benzodiazépines par-dessus les symptômes de sevrage alcoolique qui peuvent être vraiment incommodants pour les patients. Si on arrive aux doses en fait à prescrire chez les patients qui ont un sevrage en fait léger ou modéré là qu'on a déterminé un petit peu plus haut à savoir s'ils doivent recevoir des traitements. Donc les doses doivent vraiment être individualisées selon les patients, leurs symptômes puis leur tolérance aux benzodiazépines. À titre d'exemple, une dose de lorazépam pour un sevrage léger pourrait être de 0,5 à 1 mg par la bouche, ce qui équivaut à environ 2,5 à 5 mg de diazépam. Donc, au niveau des régimes posologiques, donc pour la fréquence d'administration, on a deux méthodes en fait qu'on peut utiliser là pour la prise en charge du sevrage alcoolique. Donc, on a soit la posologie en fait en dose en fonction des symptômes, donc plus avec une approche là, PRN administrée au patient selon la sévérité des symptômes. Donc, on peut en fait déterminer là, quand on va donner un PRN de benzodiazépine avec le score en fait CIWA modifié. Donc, c'est la méthode qui est recommandée parce qu'elle permet de diminuer le risque de sous-dosage ou de surdosage aux benzodiazépines qui peuvent être quand même importants. Donc, par exemple, dans cette méthode-là, on peut administrer lorazépam 2 mg par la bouche si le CIWA modifié, par exemple, est entre 7 et 12, puis de donner, par exemple, lorazépam 4 mg si jamais le CIWA modifié est supérieur à 12. Donc, la fréquence d'administration permet vraiment là, d'être individualisée selon la fréquence de la surveillance des patients. Sinon, dans les méthodes où on a un petit plus de difficultés là, avec les ressources pour pouvoir occasionner une surveillance étroite du patient, on peut utiliser la méthode de l'horaire fixe. Celle-ci est recommandée là, vraiment de façon régulière avec un PRN aussi en parallèle pour s'assurer là, de ne pas rendre les patients inconfortables. Donc, dans un exemple de rareté, on pourrait prescrire du diazépam 5 mg dans la boule aux 8 heures, avec du diazépam, par exemple, 2,5 mg aux 4 heures si besoin, si le CIWA modifié est supérieur ou égal à 7. Donc, c'est toujours nécessaire aussi de préciser quand on régime une ordonnance là, avec des doses régulières de benzodiazépine pour un sevrage à l'alcool, de ne pas administrer des doses là, régulières si le patient est somnolent, s'il y a un indice de saturation inférieur à 90-92% ou encore si son rythme respiratoire est inférieur à 10. Donc, par mesure de sécurité.
Il y a quand même un suivi qu'on doit demander aux infirmières aussi, je crois.
Oui, exactement. Donc, si j'arrive à la surveillance du patient et de la thérapie, pardonnez-moi. Donc, comme je vous dis, la surveillance doit être rapprochée quand les patients présentent des symptômes de sevrage. Donc, dans les patients qui ont des symptômes légers à faible risque de complications, on peut alors demander une surveillance en fait aux 4 à 6 heures pour les premiers 36 heures si le patient évolue bien. Puis ensuite, on peut y aller avec une surveillance plus standard là aux 24 heures. Puis pour les patients en fait qui ont des symptômes plus modérés, on peut demander une surveillance plus accrue là pour les premiers 24 heures, donc environ aux 1 à 4 heures là pour afin de s'assurer vraiment là que le sevrage se passe bien. Puis il faut aussi du côté médical ou en fait des pharmaciens aller réévaluer fréquemment les patients dans la première journée là pour réévaluer les doses non prescrites. Pour la surveillance des symptômes, il est aussi primordial de regarder les symptômes en lien, avec le sevrage alcoolique, mais aussi les effets indésirables des benzodiazépines comme la somnolence. Donc, ou une diminution de la saturation. Donc, à ce moment-là, on devrait là, revoir en fait nos traitements pharmaceutiques. Donc, sinon, je peux apporter aussi une précision pour les patients qui sont à risque de sevrage, mais qui n'ont pas de symptômes de sevrage à proprement dit. Pour les patients qui sont à risque de présenter des symptômes, on peut pouvoir prescrire en fait là, des benzodiazépines en prophylaxie, donc pour éviter de se présenter avec des symptômes de sevrage en cours d'hospitalisation. À ce moment-là, on peut prescrire en fait du lorazépam là, de façon régulière pour environ 48 heures, donc à faible dose, donc soit par exemple lorazépam 0,5 à 1 mg là, 4 fois par jour régulier pour 48 heures, accompagné de doses au besoin. Puis si le patient, par exemple, prend des doses au besoin pendant le premier 48 heures, donc on a un échec en fait à la prévention du sevrage, puis on tombe vraiment dans une approche de sevrage actif.
Est-ce que tu as d'autres traitements à nous proposer aussi?
Oui, donc il y a d'autres traitements qui existent pour le sevrage alcoolique, donc sont présentés également dans le guide de l'INAES. Donc, dans les sevrages légers à modérés, il y a la gabapentine et la clonidine qui peuvent être utilisées. Donc, pour ce qui est de la gabapentine, c'est une molécule qui devrait être utilisée là, seulement lors d'un sevrage léger ou modéré chez les patients à faible risque de complications. Parce que la gabapentine, en fait, ne prévient pas suffisamment les convulsions et le délirium tremens là, quand il est utilisé seul. Il peut être utilisé aussi en traitement adjuvant aux benzodiazépines quand la titration des doses de benzodiazépine est atteinte. Donc, quand on n'arrête pas d'augmenter les doses de lorazépam ou de diazépam puis qu'on voit qu'il y a un peu d'amélioration au niveau des symptômes du patient, on peut y aller en combinaison avec cette molécule. Dans ma pratique personnelle, j'utilise la molécule plus pour les poursuites de traitement des sevrages à l'alcool au long terme en externe parce qu'il y a des bénéfices aussi pour prolonger l'abstinence de la consommation ou encore diminuer là, les consommations. Puis, c'est une molécule aussi à faible risque d'abus. Donc, en externe, on préfère ça aux benzodiazépines qui peuvent avoir là, une tolérance ou encore un abus.
Est-ce qu'on a besoin de grosses doses un peu comme en douleur ou on titre ou c'est des doses fixes?
On peut titrer pour la gabapentine. Donc, dans le guide INAES, on suggère en fait de commencer avec une dose entre 100 à 300 mg trois fois par jour. Puis, on peut titrer là, jusqu'à 1200 mg là, facilement. Mais je ne me suis pas rendue là encore dans ma pratique dans la titration de la gabapentine. Donc, souvent avec un 300 mg trois fois par jour ou encore là, un 450 mg, les patients voient quand même une bonne amélioration puis un bon contrôle de leurs symptômes de sevrage léger.
Est-ce qu'il y a encore de la place pour la clonidine, une vieille drogue que je suis certain que vous n'avez que mes auditeurs n'ont jamais utilisée?
Donc, la clonidine, en fait, si je fais un petit aspect pharmacologique, donc c'est un agoniste alpha-2 adrénergique, au même titre que la dexmedetomidine, donc le précédex, qui peut être utilisé dans les sevrages là, sévères qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Donc, c'est une molécule qui n'a aucun effet GABA, donc qui permet seulement de contrôler l'hyperactivité du système nerveux autonome, comme l'hypertension, la tachycardie, puis l'anxiété, qui peuvent être des symptômes, en fait, de sevrage à l'alcool. La clonidine peut avoir des bénéfices seulement comme adjuvant aux benzodiazépines, donc en masquant l'effet hyperadrénergique du patient. Donc, pour les patients avec des symptômes de sevrage hospitalisés aux étages là, en établissement de santé, elle est très rarement utilisée parce qu'elle donne l'impression d'avoir un contrôle des symptômes de sevrage, mais prévient pas les convulsions ou encore le délirium tremens. Donc, personnellement, je l'utilise très peu parce qu'on peut, on a la chance en fait d'avoir d'autres molécules en établissement de santé là, facilement utilisables puis qui vont permettre aux patients là, d'apporter moins de complications à leur sevrage. Sinon, il y a d'autres molécules comme le phénobarbital, la dexmedetomidine, le propofol, la kétamine qui peuvent être utilisées, mais dans un contexte de sevrage sévère qu'on n'abordera pas aujourd'hui.
Je sais que le phénobarbital qu'on a une belle vogue dans les hôpitaux à Québec, mais on va en rediscuter avec notre intensiviste lors d'une prochaine entrevue. J'aurais pour une dernière question de ma part. Quand un patient prend déjà des benzodiazépines, parce que la plupart de nos patients consomment malheureusement, comment est-ce que tu fais l'ajustement de la dose initiale des benzos par rapport à la consommation réelle du patient, s'il est en sevrage?
En fait, comment je fonctionne de mon côté, donc je m'assure d'aller questionner le patient sur sa consommation de benzodiazépines à la maison. Donc, par exemple, s'il prenait de l'Ativan, lorazépam, 1 mg deux fois par jour régulièrement, je m'assure de lui laisser cette dose-là régulière prescrite sans notion. Là, je le calcule pas dans ma dose de benzodiazépines de sevrage à l'alcool. Donc, je laisse cette prescription-là standard comme il prenait à la maison. Puis, je prescris par-dessus, en fait, des doses subséquentes. Donc, c'est sûr que je fais toujours la conversion. C'est sûr que s'il prend, par exemple, 2 mg de lorazépam par jour, ben, je vais avoir tendance à peut-être favoriser dans un sevrage léger à modéré la dose de 1 mg aux 4 heures ou 4 fois par jour là, pour m'assurer, en fait, que le patient là, aille suffisamment de benzodiazépines puis que sa tolérance aux benzodiazépines se fasse pas voir dans les prescriptions là, pour le sevrage à l'alcool.
Si tu avais un patient en bas de 60 ans, sans atteinte hépatique, est-ce que tu préférerais le Valium ou encore l'Ativan? Je sais, il ne faut pas sevrage... répondre selon la mode, là, parce que la mode, tout le monde va donner de l'Ativan parce qu'on s'en souvient, c'est facile, mais à votre avis?
Donc, chez les quand même consommateurs, là, des grands consommateurs d'alcool ont tendance à avoir une certaine tolérance au lorazépam puis ont beaucoup d'effets de fin de dose. Donc, dans ces cas-là, je favorise le diazépam. J'ai tendance à débuter quand même là, dans un sevrage léger ma prise en charge avec du lorazépam. Puis si, là, en quelques heures ou dans le premier 24 heures, je vois qu'on a vraiment peu d'amélioration au niveau des symptômes puis un faible contrôle, en fait, du sevrage, je vais vraiment pas hésiter là, à changer de molécule pour y aller avec le diazépam. Mais c'est sûr que j'ai moins tendance à laisser partir les patients avec cette molécule-là. Puis, faut vraiment réévaluer là, fréquemment. Vu qu'elle a une longue demi-vie, souvent dans les premiers 8 heures, 16 heures là, suite au relais vers le diazépam, les patients ont tendance à avoir un contrôle encore là, du sevrage qui peu optimal, mais à partir du moment où le diazépam commence vraiment à faire effet, il ne faut pas gêner pour diminuer les doses, là, puis vraiment réévaluer souvent nos patients parce qu'ils ont tendance à l'accumuler un petit peu.
Alors, je remercie vraiment ici Rosalie Darvaux de sa générosité en ce samedi matin, un peu froid, mais qui a plein de chaleur pour le sevrage alcoolique. Je vous recommande très fortement de lire le guide de l'INAES, de vous approprier dans vos téléphones les questionnaires pour le risque de sevrage et pour l'ajustement des médicaments. Et puis, je vous convie bientôt à un autre balado sur le sujet du sevrage alcoolique. Nous verrons à ce moment-là, avec un intensiviste, le traitement et le suivi du sevrage sévère dans un cadre hospitalier et surtout aux soins intensifs. Alors, merci, Mme Darvaux, et à la prochaine.
Merci, Dr. Garceau. Au revoir.